Ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective.
Votre chronique Femmes Numériques présentée par Famille Rurale de l'Ain.
Mais si, je suis très bien.
Non.
Bonjour à toi qui nous écoutes, bienvenue pour cette 4e édition. Je suis Nathan, chargé de projet numérique à Famille Rurale et je suis ton animateur sur la chronique Famille Numérique. Au cours de ces émissions, nous serons ensemble durant 15 minutes pour essayer de comprendre les technologies qui nous entourent, smartphones, gaming, réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, on pénètre dans l'univers vaste des jeux vidéo, alors on se fait un FIFA ? Et je serai accompagné pour cette chronique de Léa, chargée de projet numérique à la médiathèque de Bourg-en-Bresse. Léa, bonjour.
Bonjour.
Alors, du tout premier jeu vidéo jusqu'au dernier jeu de réalité virtuelle, les jeux vidéo ont cette réputation d'être violents, nuisant au développement intellectuel et social des jeunes, mais qu'en est-il réellement ? Les jeux vidéo, entre innovation technologique et création artistique, c'est plus de 3,8 millions de Français jouant à un jeu vidéo en moyenne chaque jour, prenant une place de plus en plus importante dans nos vies, notamment avec le développement de l'e-sport ces dernières années. On peut même parler de patrimoine culturel. Donc, jeux vidéo et santé, comment faire du jeu vidéo une pratique familiale ou pédagogique, et plus encore, c'est tout de suite. Léa, bienvenue à toi.
Merci.
Alors, j'ai quelques questions à te poser, de sorte à ce qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu es prête ?
C'est parti, je suis prête.
Alors, si tu commençais par présenter ton métier.
Mon intitulé de poste très officiel, c'est médiatrice des ressources numériques et culturelles. C'est un truc hyper long pour dire que je fais le lien entre ce qu'on propose autour du numérique dans les médiathèques et le public. Je dis jamais que je suis médiatrice numérique, qui est un métier à part entière avec le diplôme qui va bien. Moi, je suis avant tout bibliothécaire et il se trouve que je m'occupe du numérique. Donc, je suis principalement basée à la médiathèque Camus. Mon travail consiste à proposer des animations autour du numérique et du multimédia. Donc, ça va du tournoi de jeux vidéo à la modélisation 3D, en passant par des ateliers d'initiation à l'informatique, tout ça. Mon rôle, c'est aussi de mettre en avant nos collections de jeux, mais aussi de documentaires traitant du numérique et du multimédia. Et bien sûr, à toutes ces occasions, je suis aussi là pour conseiller le public et répondre à leurs éventuelles questions ou appréhensions sur ces questions. Et bien sûr, je ne suis pas toute seule, j'ai toute une escouade de collègues et on se complète.
D'accord, super, c'est intéressant. Et du coup, quel lien est-ce que tu entretiens avec les jeux vidéo au sein de ton travail ?
Alors, la particularité du métier de bibliothécaire, c'est que travail et loisirs sont liés. Ça veut dire que les jeux vidéo qu'on propose auprès, ben, j'y joue sur mon temps personnel, avant tout pour le plaisir. Mais il n'empêche que je ne peux pas m'empêcher de me dire pendant que je joue « Ah bah celui-là, il pourrait être pas mal pour une animation. » Et du coup, je joue et en même temps, je réfléchis à ce que je pourrais en faire au travail. Pour ce qui est du quotidien au travail, les jeux vidéo sont très présents. Avec mes collègues, on réfléchit aux jeux qu'on pourrait acheter pour enrichir les collections. On est à l'affût des sorties, des critiques, mais aussi des demandes du public, évidemment, et des genres de jeux qui sont très empruntés. Enfin bref, il y a beaucoup de jeux vidéo dans ma vie.
D'accord, et vu que du coup, il y a beaucoup de jeux vidéo dans ta vie, si tu devais choisir un personnage justement de jeux vidéo fétiche, ce serait lequel ?
C'est super dur comme question. Bon, si je devais en choisir qu'un, je pense que ce serait Ciri, qui est un des personnages du jeu The Witcher.
D'accord, ok. Est-ce que tu aurais une petite anecdote, un peu insolite sur les jeux vidéo ou bien le numérique à nous mettre sur la dent ?
J'ai grave la pression parce que les anecdotes d'avant étaient incroyables.
Ah, c'est ça.
Du coup, à quoi je peux penser ? Alors, c'est pas hyper radiophonique à expliquer juste comme ça à la voix, mais... Quand on fait des initiations à la réalité virtuelle, à la médiathèque, c'est toujours drôle de voir les gens. On ne voit pas ce qu'ils voient. Et du coup, ils sont dans des états incroyables. Des fois, il y a des gens qui se mettent à pleurer parce qu'ils écoutent un concert de violon. Il y a un enfant, une fois, il regardait la Terre en vision satellite avec son casque. Et puis, il levait les pieds parce qu'il avait peur de mettre des coups de pied dans les immeubles. Enfin, voilà, c'est
d'accord,
très
okay.
Drôle.
Bon, maintenant que tu t'es présenté, est-ce que tu peux nous dire... Qu'est-ce que c'est qu'être addict à un jeu vidéo, selon toi ?
Alors, le vif du sujet.
Exactement.
Direct.
On y rentre direct.
Alors, en fait, la notion d'addiction aux jeux vidéo, elle divise beaucoup. L'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, parle de notion de gaming disorder. Donc, je ne vais pas me lancer dans le débat parce que c'est long et compliqué.
Ouais, ouais.
Je ne vais pas débattre toute seule, en plus. Mais je vais citer Serge Tisseron, qui est psychiatre et qui dit... L'OMS précise que cette addiction est comportementale. Cela veut dire que contrairement à l'addiction à une drogue, on peut s'arrêter sans syndrome de sevrage et sans risque de rechute. Mieux vaut donc bannir le mot « addiction » de notre vocabulaire. Cela ne veut pas pour autant dire que cela ne peut pas être grave. Et donc ça résume bien mon point de vue, cette citation, parce que je pense qu'on peut s'inquiéter d'une personne qui fait plus que ça, un ado qui sécherait les cours, qui verrait plus ses potes, qui passerait 20 heures sur 24 à jouer. Mais il faut pas faire, je pense qu'il faut faire attention à ne pas confondre addiction et passion, parce qu'on s'inquiète moins d'un enfant qui parle que d'Harry Potter et qui relit les livres 15 fois, qui connaît tout par cœur, que d'un enfant qui joue à Fortnite tous les soirs et qui connaît tous les secrets du jeu. Si cet enfant, ça ne l'empêche pas d'aller au foot le samedi, de faire ses devoirs, d'aller chez ses copains, je pense qu'on peut dire que Fortnite, c'est sa passion, et tant mieux, parce que c'est cool d'avoir une passion.
Donc finalement, ça se résumerait peut-être plus à... est-ce que ça ne serait pas un frein, du coup, à l'environnement social de l'enfant, ou même de l'adulte?
Oui, voilà, c'est
ça. Ça peut toucher un adulte aussi.
Exactement.
Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait réagir face à la consommation excessive d'un ado accro?
Alors, je pense que la première chose à faire, c'est essayer de comprendre pourquoi cet ado passe autant de temps à jouer, justement. Si on fait de la psychologie de comptoir, je dirais que parfois, c'est pour échapper à autre chose qu'on peut se réfugier dans le jeu. Ça se passe mal au collège, à la maison, il s'est passé quelque chose auquel il ne veut pas penser. Et du coup, le jeu vidéo peut être vu comme une échappatoire pour sortir de la réalité et se plonger dans un autre monde. Après, je nie pas que certains jeux sont construits pour être addictifs. On veut avoir toujours plus de points, toujours faire plus, toujours faire mieux. Et à ce moment-là, je pense aussi que la première étape, c'est d'en discuter, c'est-à-dire de demander à l'ado qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'arrêter de jouer. Je pense vraiment que la première étape, du coup, c'est le dialogue. Après, je n'ai pas d'ado à la maison. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense quand même que c'est important de comprendre d'où vient le problème. Et selon moi, si le dialogue est vraiment rompu sur le sujet, il ne faut pas hésiter à faire appel à un psychologue pour creuser cette question.
D'accord. Et de quelle façon est-ce que, du coup, un parent peut-il savoir quel jeu vidéo est adapté à son enfant?
Alors, c'est une très bonne question, puisque je pense que c'est important de pouvoir sélectionner des jeux qui soient adaptés à chaque âge et à chaque pratique. Le premier indicateur, c'est le PEGI, ce fameux chiffre en bas des jaquettes de jeux vidéo. Donc, il y en a 5 qui correspondent aux âges qui correspondent. Aux âges à partir desquels l'éditeur conseille de jouer. Donc il y a PEGI 3, 7, 12, 16 et 18. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas l'indicateur ultime non plus. L'attribution des PEGI se fait selon des critères hyper précis et parfois c'est un peu artificiel. Un jeu qui peut être hyper mignon, pas violent, tout ça, s'il y a un personnage qui dit un gros mot à un moment du jeu, le jeu il peut passer direct en PEGI 12. J'exagère, mais voilà, c'est pour donner une idée de ce que ça peut être. Et en plus, le PEGI ne prend pas du tout en compte la difficulté du jeu ou la jouabilité. Je donne toujours l'exemple du jeu, le fameux FIFA, qui est un jeu de simulation de foot. Il est PEGI 3, mais en fait, un enfant de 3 ans, il est incapable de jouer à FIFA. C'est trop difficile.
Normal. Et moi, le premier. Et j'ai pas 3 ans.
Bah, oui, pareil. Et du coup, il y a un autre indicateur qui est pour moi hyper important et pertinent. C'est le propre regard des parents sur le jeu auquel l'enfant veut jouer. Si votre enfant demande à jouer à un jeu, renseignez-vous dessus. Vous pouvez trouver plein d'infos sur Internet, notamment des extraits de jeux et des bandes-annonces. Ça vous donne une idée de l'univers, de l'ambiance du jeu, etc. Et puis, vous pouvez demander conseil à vos bibliothécaires préférés, bien évidemment. Mais blague à part, il y a peut-être autour de vous des gens qui sont adeptes de jeux vidéo ou des professionnels qui connaissent la question, donc il ne faut jamais hésiter à demander conseil.
On entend beaucoup dire, du coup, de la part des parents, que les jeux nuisent gravement. Et à contrario, chez les jeunes, c'est tout l'inverse, que c'est la solution à de nombreux soucis. Même que ça pourrait rendre plus intelligent. Du coup, qui a raison?
Ça serait trop facile que ce soit bizarre à ce point-là. En fait, il y a autant de jeux que de joueurs et de façons de jouer. Tout dépend à quoi on joue, à quelle fréquence et comment. Il y a toujours un juste milieu au final. Et puis, c'est vraiment parce qu'il y a ce débat aujourd'hui sur le jeu vidéo. À une époque, c'était sur la télé et encore à une époque même, c'était sur la lecture. Donc au final, c'est des questions de pratique et de façon d'utiliser le jeu vidéo.
Alors, un jeu du nom de Xtorp en tant que thérapie non médicamenteuse pour les maladies d'Alzheimer. Les jeux de plateforme qui permettraient d'accroître la matière grise au sein de l'hippocampe, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que toi, tu y crois?
Ah ouais, je suis convaincue. J'ai toujours trouvé que les jeux, ça permettait de développer des capacités. Il n'y a qu'à voir les noms de certains genres de jeux. On parle de jeux d'agilité, de jeux de réflexion, de jeux de stratégie. C'est bien qu'on fait travailler ces choses-là quand on joue.
On est d'accord. Alors maintenant, est-ce que tu aurais quelques exemples de facettes positives apportées par le jeu vidéo ?
Alors, je ne vais pas être exhaustive parce que j'en vois plein. Mais le premier que je vois, c'est le côté fédérateur que peut avoir le jeu vidéo, se rassembler autour d'une communauté de joueurs, jouer avec ses amis, sa famille. Et comme je le disais juste avant aussi, c'est un moyen de développer des compétences et des capacités, ce qui est quand même plutôt chouette. Et un dernier, certains jeux sont juste hyper beaux en fait. Il y a une vraie valeur esthétique et artistique à plein de jeux vidéo.
D'accord, et du coup, avec la crise sanitaire, est-ce que tu penses que du coup les jeux vidéo ont pu apporter une plus-value, quelque chose ?
Je pense que vraiment, surtout pendant le premier confinement, le jeu vidéo, ça a été une vraie échappatoire pour plein de monde. Il n'y a qu'à voir, vous avez sûrement entendu parler du jeu Animal Crossing.
Effectivement.
Qui permet de customiser sa propre île, de faire son propre village, etc. Et ça a battu tous les records de vente durant le confinement. Et au-delà de ça, il y a le jeu en ligne aussi qui, je pense, a une vraie importance en ce moment parce que ça permet de garder le contact avec d'autres personnes tout en restant à distance. On joue ensemble, mais on est chacun chez soi et c'est plutôt restriction sanitaire friendly quand même.
Ouais. En tant que parent, cette fois, alors tu nous as dit que tu n'avais pas d'ado tout à l'heure, mais comment faire du jeu vidéo une pratique familiale et ou pédagogique ?
Alors moi, ma pratique familiale s'arrête à quand je joue avec mon copain parce que mes animaux n'ont pas de pouce opposable. Du coup, ils ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo.
Un jour peut-être.
Qui sait ? Mais du coup, oui, quand on joue à deux, des fois on joue à des jeux multijoueurs ou des fois on joue à des jeux solo, mais on se passe la manette. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, le jeu vidéo, ça peut créer des vrais moments d'échange et de partage, d'engueulade aussi, mais c'est normal. Et au-delà de ça, à mon travail, je suis souvent amenée à discuter avec des parents de la question des jeux vidéo. Et c'est ce que je leur dis aussi, on peut très facilement sortir d'une pratique solitaire et isolée. Alors, je ne dis pas qu'il faut que jouer à plusieurs, parce que moi, c'est important qu'un enfant ou des parents aient une pratique personnelle aussi, des moments où ils sont tout seuls. Mais ça n'empêche pas du tout de discuter en fait, de ce qu'on fait, même quand on joue tout seul. Tu joues à quoi ? Tu me montres et surtout, est-ce qu'on essaye ensemble pour que je vois quoi merci. Tu joues, en fait.
Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Léa. Maintenant, si tu acceptes de relever le défi, j'ai un petit quiz à te faire passer.
J'ai peur, mais d'accord.
Allez, c'est parti. Je t'explique rapidement les règles du jeu. Le quiz se déroule du coup en 4 questions, rapportant un point chacune. Donc les deux premières sous son forme de oui ou non, jusque là ça va, les deux premières sont plutôt simples. Après ça se complique et les deux dernières sous forme de QCM. C'est parti. Alors première question. La plus grande manette de jeu pesait 68 kg, mesurait 2 mètres et demi pour 1 mètre de large.
Ben, je dirais vrai.
Vrai ? Eh ben écoute, c'est une bonne réponse. C'est la réplique en fait du joypad de la Nintendo NES. Alors c'est vrai que ça devait pas être très pratique pour jouer.
Effectivement.
Hein. Deuxième question. Le premier jeu vidéo est né en 1972. Vrai ou faux ?
Premier jeu vidéo ? Je crois que c'est Pong. Premier jeu. Je crois que c'est plus vieux que ça. Je dirais faux.
Eh ben écoute, je pense que t'as eu de la chance parce que pour le coup c'était faux. Le premier jeu, il est né en 1940.
Ah ouais.
C'était Nimatro, tu sais, le jeu de Nîmes avec les bâtons.
Mais oui, mais en plus, c'est même pas Pong, donc je dis n'importe quoi.
Ouais. Mais pour coup, Pong, c'était le premier gros jeu à succès, en fait. Les autres sont vraiment passés à la trappe.
Ok, ça va.
Ok, bah, écoute, tu t'en sors pas trop mal.
Ouais, 1/2.
Tu sens même plutôt bien. Bah non,
enfin, oui.
C'est une bonne réponse.
C'est vrai, techniquement, 2 bonnes réponses.
Heureusement que j'ai pas demandé une réponse
exact.
Précise.
Mais... Oui.
Bon... Du coup, là, ça se complique. Est-ce que t'es toujours prête ?
Oui.
Le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps est... Réponse A, Pokémon. Réponse B, Tetris. Réponse C, Wii Sport. Réponse D, Minecraft.
Je pense que c'est Tetris.
Tetris ?
Ouais.
Sûr, on valide ?
Sûr, non, mais je plaque ma réponse.
On valide. Je suis désolé, c'est une mauvaise réponse. C'était Minecraft.
Minecraft.
Et après, c'était Tetris. Bon.
J'ai hésité. Mais
ça sauve l'honneur. Toute dernière question. Le support le plus utilisé pour jouer à un jeu vidéo est... Réponse A, le téléphone. Réponse B, l'ordinateur. Réponse C, la console de jeu, comme la Switch. Réponse D, la console de jeu portable, comme la Switch.
Je pense que c'est le téléphone.
Le téléphone, sûr?
Je suis toujours pas sûr, mais je valide ma réponse, Jean-Pierre.
Bah, c'est une bonne réponse, ah oui, c'est gagné. Donc on part sur 3 réponses sur 4. Donc c'est selon une étude réalisée par Médiométrie. Donc le smartphone est désormais le support privilégié pour jouer aux jeux vidéo. Donc il est à 59% devant l'ordinateur, qui est à 55%, et la console, donc 47%. Merci beaucoup pour ta participation. Ton score est donc de 3 sur 4. Je te félicite. Je pense que je suis même sûr que tu as battu tous les records jusqu'à présent. Tous nos invités, ils ont fait vraiment la moyenne pile.
Ça va, je m'en sors pas trop mal.
Ouais, tu t'en sors pas mal, à contrario du coup de ton anecdote, ça compense.
Ça va, je me rattrape.
Bon, pour terminer, maintenant qu'on a bien rigolé, si tu devais résumer en 3 points les jeux vidéo et ce qu'on vient de voir, par où est-ce que tu commencerais ?
Alors, pour commencer, ne pas diaboliser les jeux vidéo, chercher à comprendre, à se renseigner sur les différents types de jeux et la pluralité de l'édition vidéoludique, parce que c'est quand même très très large. Ensuite, varier les pratiques, jouer seul à plusieurs, c'est toujours bien. Et enfin, on a bien sûr le droit de ne pas aimer les jeux vidéo, mais ça n'empêche pas de respecter les loisirs des autres.
Et du coup, si des auditeurs veulent en savoir plus sur comment accompagner un jeune sur sa consommation des jeux, ou encore donner la chance aux enfants de convaincre ses parents d'arrêter de diaboliser les jeux, est-ce que tu pourrais nous donner quelques ressources ou conseils ?
Alors là, je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu demandes à une bibliothécaire de te donner des ressources.
j'ai peur. Mais j'ai pris le risque.
J'en ai sélectionné 3, j'en avais 15 000 dans la tête. Donc, je vais commencer par le livre du psychiatre Serge Tisseron dont je parlais tout à l'heure. Le livre s'appelle 3-6-9-12, apprivoiser les écrans et grandir. C'est un petit livre qui s'adresse aux parents et qui donne des préconisations sur l'utilisation des écrans par les enfants à différents moments de la vie, donc d'où le 3-6-9-12. Et que ça soit en durée, en temps ou en contenu. Il y a beaucoup de livres sur la question des pratiques numériques au sein de la famille. Il y en a des très intéressants, d'autres moins forcément. Je vous conseille en fait de bien vous renseigner sur les auteurs de ces livres et sur leur légitimité sur ces questions, parce que des fois il y a un peu Pierre, Paul et Jacques qui s'emparent du sujet.
C'est comme tout.
Voilà, exactement. J'ai pensé aussi à un livre qui est pour le coup plutôt spécifique, mais qui, je me dis, peut être utile aux personnes concernées. Il s'appelle « Comment aider mon enfant différent avec les écrans TSA, TED, hyperactivité et troubles de l'attention ?» écrit par le psychologue Alexis Rimbaud. Donc forcément, ça ne donne pas des solutions miracles, mais c'est un livre qui permet aux parents de trouver quelques points de repère sur les pratiques des écrans des enfants concernés par les troubles cités dans le titre. Et un petit dernier que je n'avais pas prévu, mais auquel j'ai repensé après. C'est un livre qui s'appelle « Petit lexique, pas si amoureux des jeux vidéo » par un youtubeur qui s'appelle Monsieur Plouf. Si vous êtes perdu dans le vocabulaire du jeu vidéo, c'est pas mal parce qu'on retrouve une explication parce que c'est un vrai vocabulaire à part. Et si on n'y connaît rien, forcément, on ne comprend rien. Donc ça peut donner des clés de compréhension à certaines conversations. Et donc, comme par hasard, tous ces livres sont disponibles dans les médiathèques de Bourg-en-Bresse. Incroyable.
Coïncidence, je ne crois pas. Eh bien écoute, merci Léa. Merci à toi de nous avoir écoutés. Tu peux réécouter cette chronique depuis le site de Radio B. On se retrouve sur ce le mois prochain, même heure. Et en attendant, tu peux nous retrouver sur Facebook et YouTube sous le nom de Femmes Viriles et Hommes Sensibles. Bonne journée.
Au revoir.